L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale. L'actualité principale de cette semaine, c'était bien évidemment le début lundi de la vaccination pour les plus de 75 ans hors EHPAD. Cela concerne plus de 350 000 personnes dans les Pays de la Loire, c'est près de 10% de la population. À Angers, nous sommes allés à la rencontre des tout premiers vaccinés. Rien ne va plus entre les supporters du FC Nantes et leur président et propriétaire Waldemar Kita. Depuis quelques années, les actions se multiplient pour précipiter son départ et lui demander de vendre le club. L'association à la nantaise lui propose une solution, le rachat du club par des entreprises locales et l'actionnariat populaire. Retour ensuite sur le procès du père Max de Guibert, prêtre du diocèse du Mans, jugé pour pédophilie il y a quelques semaines et dont le verdict est tombé cette semaine. Celui-ci est condamné à 3 ans de prison ferme mais ne devrait pas être incarcéré. Sa peine devrait être aménagée en raison des 10 mois d'emprisonnement déjà effectués. Mercredi dernier, c'était la fête de Saint-Sébastien, ce martyr des premiers siècles, transpercé de nombreuses flèches. Savez-vous que tous les ans, depuis 1751, dans une petite commune mayennaise, une procession et une messe réunissent les habitants du village autour de la dévotion à Saint-Sébastien? Nous découvrirons pourquoi. Et enfin, nous nous pencherons une nouvelle fois sur le sort du milieu culturel qui vit une période plus que troublée et dont l'avenir est très incertain. Nous irons en Vendée à la rencontre des responsables d'un cinéma d'art et d'essai à La Roche-sur-Yon et d'une salle de spectacle à Saint-Hilaire-de-Riez. Voilà donc pour le programme de cette hebdo-région des Pays de la Loire. Il vous est présenté par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Depuis lundi, les plus de 75 ans qui vivent chez eux peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. Cela concerne plus de 350 000 personnes dans les Pays de la Loire. C'est près de 10% de la population. Alors pour se faire vacciner, elles doivent prendre rendez-vous dans l'un des 31 centres de vaccination qui ont ouvert cette semaine dans la région. Et à Angers, les tout premiers patients ont pu se faire vacciner lundi après-midi au Grenier Saint-Jean. Le reportage de Marion Bastide.
Allez, on y va, je pique. Ça va ?
Tout va très bien, tout va très bien. Ça picote un tout petit peu, mais non, c'est bien.
Assise dans un box, manche relevée sur l'épaule, Renée tressaille à peine en sentant la seringue s'enfoncer dans son bras. À 83 ans, cette angevine fait partie des premiers vaccinés.
J'ai appelé, puis on va donner un rendez-vous aujourd'hui. J'y croyais pas trop, j'étais très contente. D'abord, c'est une sécurité pour nous. Et c'est un devoir pour les personnes qu'on croise.
À l'entrée, quelques personnes patientent, car avant de recevoir la précieuse injection, il faut d'abord passer quelques étapes que nous explique Gérard Boussin, médecin de la ville d'Angers. Il coordonne ce centre de vaccination.
On vérifie d'abord qu'elle ait pris rendez-vous, ensuite elle remplit le questionnaire de 5 ou 6 questions. Si elle répond non à toutes les questions, le médecin valide, il signe et ça vaut prescription. Et après, la personne part se faire vacciner et ensuite elle reste là un quart d'heure, 20 minutes après être vaccinée. Si elle a répondu oui à une des questions, le médecin la voit, prend le temps de discuter avec elle et éventuellement ça peut amener à une consultation médicale.
Ces questions correspondent aux contre-indications.
Les contre-indications, c'était l'allergie, le fait d'avoir été vacciné par un vaccin, y compris la grippe, il y a depuis moins de 3 semaines, le fait d'avoir fait un Covid, le fait d'avoir été un cas contact. Voilà autant de contre-indications qu'il faut pouvoir prendre en compte. Mais il y a très peu de contre-indications.
Assis à une table dans l'entrée, Lucette et Jean sont justement en train de remplir leur questionnaire. À 77 ans, ce couple a décidé de se faire vacciner.
Pour nous déjà, et puis si on veut voir nos enfants, nos petits-enfants, nous on a nos enfants qui nous ont bien motivés. Je pense que si on veut sortir du Covid, eh bien, il faut faire confiance à la science.
Leur fille a bataillé sur Internet pour réussir à leur trouver un rendez-vous.
On s'est débrouillé, notre fille a essayé le mercredi avec beaucoup de difficultés et le jeudi matin entre 11h et 11h30, pile poil pour les deux. Ça a été notre chance. Parce que nous, on n'est pas outillés à la maison. Puis on a des vieux portables, alors c'était pas possible.
Lucette et Jean ont eu de la chance, car les créneaux s'arrachent à Angers. Il y en a 800 par semaine et ils sont pris d'assaut, constate Gérard Boussin.
Les premiers rendez-vous qu'on a commencé à faire la fin de semaine dernière nous ont amenés déjà jusqu'au 15 mars. Donc la possibilité d'ouvrir des nouveaux créneaux, c'est en fonction effectivement des doses dont nous disposerons.
Avec ses 7 box ouverts 8 heures par jour du lundi au samedi, le centre de vaccination d'Angers aurait de quoi faire plus de 2000 injections par semaine, sauf qu'il n'y a pas assez de doses. Pour le moment, le Maine-et-Loire en reçoit 5000 par semaine à répartir entre les 8 centres du département. Le préfet Pierre Horry invite à la patience.
Nous avons 80 000 habitants du département de plus de 75 ans. Il est probable que dans cette population, nous ayons un taux d'adhésion au vaccin très supérieur à celui dont on nous a beaucoup parlé au cours des semaines précédentes, puisque je rappelle qu'on nous a beaucoup expliqué que les Français ne voulaient pas se faire vacciner, que maintenant on nous explique qu'ils veulent tous se faire vacciner, donc affaire à suivre. Mais on peut imaginer qu'on ait 60 à 70 000 personnes, probablement, qui souhaitent se faire vacciner. À celles-ci, je redis, qu'étant prioritaire, ils seront vaccinés, mais il faut qu'ils acceptent cette idée que oui, dans les semaines qui viennent, ça va être un peu tendu, ça va être un peu compliqué, qu'il n'y a plus de place, mais qu'ils peuvent peut-être bénéficier, on l'a vu tout à l'heure à Ségré-en-Anjou, d'une place qui se libère. Et puis de toute façon, encore une fois, ils sont prioritaires, donc de toute façon, ils seront vaccinés dans les semaines qui viennent.
Au rythme actuel des choses, il faudrait plus de 7 mois pour que tous les Angevins de plus de 75 ans puissent être vaccinés, puisqu'il faut 2 piqûres à 3 semaines d'écart pour être immunisés contre le Covid-19.
Si le nombre de doses disponibles augmente en Maine-et-Loire, le préfet n'exclut pas d'ouvrir de nouveaux centres de vaccination. En tout cas, la situation se dégrade surtout en Sarthe. Le taux d'incidence a bondi de 40 points en une semaine. Nous sommes à 219 cas pour 100 000 habitants pour la Sarthe. C'est ce taux qui permet entre autres de mesurer la circulation du virus. Et donc la Sarthe est le département le plus touché de notre région. Jeudi, sur TF1, Olivier Véran a annoncé qu'un décret serait pris pour interdire le port des masques en tissu maison dans les rues. Selon le ministre de la Santé, il ne serait pas assez efficace pour lutter contre les nouvelles variantes du virus. Le gouvernement n'a pour le moment pas encore annoncé à partir de quand cette interdiction entrerait en vigueur. Le MEDEF des Pays de la Loire demande que les commerces puissent ouvrir les dimanches, et ça au moins jusqu'à la fin du mois de février. Pour le syndicat patronal, cela permettrait de rattraper en partie les pertes liées à la fermeture à partir de 18h en raison du couvre-feu. Cela représenterait une perte de 30% du chiffre d'affaires. Le MEDEF demande que les 5 départements de notre région prennent cette décision afin d'éviter les inégalités entre les territoires.
L'Hebdo-Région, initiative.
Les supporters du Football Club de Nantes ne veulent plus de Valdemar Quitta à la tête du club. Le président a acquis le FC Nantes en 2007, mais depuis ces dernières semaines, les actions se multiplient pour précipiter son départ et lui demander de vendre. Les supporters estiment que les mauvais résultats et la valse des entraîneurs ont assez duré. Pour réancrer le FC Nantes dans son territoire, l'association de supporters à la Nantaise lui propose une solution, le rachat du club par des entreprises locales et par l'actionnariat populaire. Les explications de son tout nouveau président, Eric Swiderski.
L'idée, c'est de ne pas laisser la gestion d'un club à un entrepreneur individuel qui, en plus, ici, est extérieur au territoire. Donc l'actionnariat populaire, en fait, on a souhaité le créer pour que les supporters puissent avoir voix au chapitre dans les décisions du club.
Donc des supporters qui seraient actionnaires en fait du FC Nantes.
Voilà, c'est ça. Nous avons créé en 2015 une SAS qui permet en fait, sous le couvert d'une cotisation de 100 euros ou 50 euros pour les demandeurs d'emploi ou étudiants, de devenir Canaries en action.
Donc depuis 2010, vous poussez cette idée d'actionnariat populaire, vous avez donc lancé cette société, cette SAS. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des actionnaires ?
Tout à fait, oui. Alors avec une communication limitée, nous avons réussi à avoir 500 Canaries en action. Sachant que ce qu'on leur a dit, c'est que nous, à la Nantaise, on est prêts, on a la forme juridique. Maintenant, on dépend aussi du bon vouloir de l'actionnaire principal, donc là, en l'occurrence, Monsieur Quitta, ou plutôt de l'actionnaire qui arriverait après Monsieur Quitta, puisqu'on sait que Monsieur Quitta, un jour ou l'autre, vendra.
Justement, Valdemar Quitta a dépensé beaucoup d'argent pour ce club encore aujourd'hui. Quel serait l'intérêt de cet actionnariat populaire ? Pourquoi retirer à un homme d'affaires un club de foot ?
Ah non, mais l'idée, c'est absolument pas de retirer à un homme d'affaires un club de foot. L'idée, c'est qu'on puisse essayer d'ancrer le territoire un peu plus dans le club. Là, on s'aperçoit que absolument rien ne rattache Valdemar Quitta, qui habite à Paris, au Football Club de Nantes, hormis le fait qu'il en soit le propriétaire. Il est important que des entreprises, que les supporters viennent dans le capital. Donc, on a perdu cet ancrage. C'est à nous, en fait, de faire en sorte que cet ancrage-là puisse revenir.
500 actionnaires aujourd'hui pour un capital de combien ?
On est à peu près donc à 500 fois 100. On a quelques étudiants ou autres, donc on peut estimer à 400 000 ou 450 000. Mais il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, on avait fait une étude grâce à Luc Arondel, qui est chercheur au CNRS. Cette étude, en fait, on avait récolté une promesse de participation à hauteur de 1 700 000. Je pense que là, Valdemarquita, avec les actions de supporters, c'est historique ce qui se passe à Nantes. Tous les groupes de supporters font consensus. Ça n'est jamais arrivé et je doute que c'est arrivé en France, mais je m'avance peut-être. Mais voilà, en tout cas, avec la crise actuelle, la Covid, les droits télé également, le football français est en train de perdre un argent phénoménal. Qui sait ce qui se passe dans la tête de Valdemarquita ? Peut-être que dans 10 ans, il sera encore là. Peut-être que dans 6 mois, il aura mandaté une personne et puis cherchera à vendre le club.
En complément d'un financement de Valdemarquita, est-ce que tout cela est possible ? Est-ce qu'on peut travailler avec le président actuel ?
Est-ce que le président actuel a envie de travailler avec les acteurs locaux et les supporters ? Il n'a absolument pas montré de signes qui vont dans ce sens.
Eric Swiderski, président de l'association à la Nantaise, il répondait aux questions d'Anthony Torzek.
L'Hebdo-Région, l'actualité religieuse.
L'actualité des diocèses cette semaine, c'est ce prêtre sartois condamné pour agression sexuelle sur mineurs. Aubéry Métro, bonjour.
Bonjour Thomas.
On avait parlé en décembre de ce procès du père Max de Guibert. Il a donc été condamné.
Max de Guibert a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 6 jeunes garçons à Mamers, à Bonnétable et à la Chapelle Montlijon. Il est condamné à 3 ans de prison ferme. Il ne devrait pas être incarcéré. Sa peine devrait être aménagée en raison des 18 mois d'emprisonnement qu'il a déjà effectué. L'ancien curé de Bonnétable et de Mamers a été d'ailleurs soumis à une injonction de soins pendant 5 ans. Il n'aura pas le droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole non plus auprès des mineurs avant 2026. Il a maintenant encore à peu près une semaine pour faire appel.
Et maintenant, Aubéry, qu'est-ce qui va se passer pour Max de Guibert ?
Eh bien, maintenant, c'est à la justice de l'Église de décider si oui ou non il pourra continuer son ministère de prêtre. Mais au-delà de ça, cette terrible affaire a créé une véritable prise de conscience dans le diocèse du Mans, de la part de l'épiscopat, mais aussi dans les paroisses. Le poids du jugement des communautés a en effet été trop fort, ce qui a empêché, selon leurs témoignages, certaines victimes de se confier. Monseigneur Lousseau, l'évêque du Mans, appelle donc chacun à prendre ses responsabilités.
Cette culture est en train de changer, d'ailleurs dans l'Église et j'espère dans la société en général. Les gens qui ont été agressés de cette manière ont peur de parler, oui. Ils ont honte et puis ont peur du jugement, de la réaction. Et je pense que même si, bien sûr, ces questions sont extrêmement douloureuses, je pense qu'aujourd'hui, le travail, il faudra du temps, ce fait qu'on a pris la mesure, je crois. Je crois qu'on n'avait pas pris la mesure de ce que ce type de comportement et de geste laisse profondément et abîme. Et je pense qu'on a tous ces événements nous obligent à prendre la mesure des choses. Et je pense qu'il faut effectivement briser la culture du silence.
Plusieurs formations ont d'ailleurs eu lieu dans le diocèse du Mans pour les prêtres, avec des intervenants venus entre autres du Vatican, mais aussi pour les laïcs qui sont en mission. Monseigneur Lousseau.
L'enseignement catholique fait des choses pour la formation. On l'a fait avec tous les agents pastoraux qui touchent aux questions des jeunes. Et là, nous sommes en train de réfléchir avec une petite équipe, une espèce de formation continue sur la prévention, parce qu'au fond, quels sont les comportements qui amènent à ce type de comportement. Puis aussi que nous levions, alors dans les paroisses, il y a eu aussi des soirées proposées pour que les gens puissent en parler. Il faut déjà pouvoir parler de ces sujets. Blessés et blessent, que ce soit de la part de prêtres, que ce soit toute autre personne qui pose des actes d'abus, qu'ils soient sexuels, mais aussi d'abus de pouvoir vis-à-vis des uns et des autres. Alors c'est un long travail, parce que à la fois on ne peut pas suspecter tout le monde, à la fois c'est comment, en fait, la vraie question, repérer les signaux faibles quand on voit une attitude qui est problématique et comment on en parle.
Et Monseigneur Lousseau invite maintenant tous les chrétiens à prier pour que de tels actes ne se reproduisent plus dans notre diocèse.
Aubéry Métro de RCF Sarthe, merci beaucoup Aubéry. Puis j'ajoute que le Sénat a adopté à l'unanimité jeudi un projet de loi pour criminaliser les violences sexuelles sur mineurs. Le but est de créer un nouveau type d'infraction. Une loi portée par la sénatrice vendéenne UDI, Annick Billon, actuelle présidente de la délégation aux droits des femmes. En 2017, le président de la République avait annoncé l'instauration d'un seuil d'âge. Le Conseil d'État avait alors émis un avis défavorable dans les discussions de la loi proposée à l'époque par Marlène Schiappa. La subtilité de la loi portée actuellement par Annick Billon est bien de créer une infraction autonome par rapport au viol, ce qui éviterait les écueils constitutionnels de 2017. La conséquence serait de ne plus questionner le consentement ni le discernement des mineurs de moins de 13 ans et de ne plus s'interroger sur les critères du viol, c'est-à-dire la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Cette loi va connaître le circuit de la navette parlementaire. La sénatrice UDI se dit confiante par rapport aux discussions à l'Assemblée nationale. Direction maintenant le département voisin de la Mayenne pour y retrouver Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne.
L'hebdo-région rencontre avec.
Alors Isabelle, comme tous les ans, depuis 1751, dans une petite commune mayennaise, une procession et une messe ont réuni cette année les habitants de ce village. Une belle tradition que vous allez nous expliquer, Isabelle.
Oui, bonjour Thomas. En effet, tous les ans, autour du 20 janvier, en général, c'est le dimanche qui suit le 20 janvier, les habitants de Saint-Cyr-le-Gravelet, c'est le petit village dont il est question, font une procession en l'honneur de Saint-Sébastien. Et il n'est pas impossible que cette année, cette procession prenne un relief très particulier. Pour qui, pourquoi ? C'est donc Louis Michel, le maire de Saint-Cyr-le-Gravelet, qui nous éclaire.
C'est un martyr qui voulait convertir un empereur et qui a eu beaucoup de mal et qui, à la fin, est mort avec les flèches pour le transpercer. Il avait fait preuve de ténacité. C'était un jeune homme qui travaillait dans la Légion romaine, qui devait avoir entre 25 et 30 ans, qui est mort aux alentours de 250.
Et si vous ne voyez toujours pas ce qui est très possible, pourquoi cette année une ferveur particulière devrait être accordée à Saint-Sébastien ? Eh bien, écoutez la suite.
Il est réapparu beaucoup plus tard. Il y a deux saints qui luttent contre les épidémies, il y a Saint-Roch et Saint-Sébastien. Et Saint-Sébastien, on l'a prié à partir des années 1400 par rapport aux premières pestes. Il est devenu le saint qui a lutté contre la peste. Et donc la région que j'habite, Saint-Cyr-le-Gravelet, mais tout le pays de Loiron, a été victime d'une grande peste dans les années 1740-1750. Et donc, le vœu des habitants de Saint-Cyr-le-Gravelet à Saint-Sébastien, ça a été fait en 1751, la première messe pour dire on s'engage, nous et toutes les générations qui nous suivront, à vous prier le 20 janvier, sans condition, de manière à ce que la peste sorte de notre territoire.
Est-ce que cette année, vu le contexte, on pourra retrouver les grandes ferveurs des premières années où on invoquait Saint-Sébastien contre la peste Le maire n'en est pas si sûr.
Elle n'est pas suivie avec ferveur, mais elle est une étape dans le calendrier. Il y a la bonne année, il y a Saint-Sébastien et il y a après Saint-Sébastien. C'est un repère religieux, c'est culturel. Je veux dire, elle va être regardée parce que déjà, on ne peut pas accueillir beaucoup. On avait fait un moment de convivialité aussi après où les gens se retrouvaient dans la salle pour prendre un pot, échanger. Donc cette année, il n'y aura pas ça. Et puis on ne sera sans doute que 80-90 dans l'église puisqu'on respectera les règles sanitaires. Ça n'empêche pas que le message est là. Je veux dire, à la crèche, il n'y a pas eu grand monde à y aller. Mais c'est des signes. Paume a eu lieu cette année. La vie est là. Ça garantit aussi que la tradition va perdurer encore, et sera portée. Parce que des gens ont choisi de la faire vivre et d'autres choisiront plus tard de continuer. Moi, ce que je regrette, c'est tous ces gens qui... Les localités où il y a eu des vœux qui ont été faits, j'en connais à Saint-Roch, et où ils ont arrêté d'être portés pour des raisons multiples. Bon, nous, on a essayé de continuer à porter ce vœu, à le faire vivre. C'est un élément de l'identité. Et donc, on a été touché par une pandémie au XVIIIe siècle, en 1751, on a fait un vœu. Eh bien, on continue. Ça oriente notre prière ce jour-là. Et puis, l'évêque l'a bien compris, vient partager ça avec nous.
Et si vous ne pouvez pas rejoindre l'église de Saint-Cyr-le-Gravelet ce dimanche à 10h30, eh bien, c'est pas grave. Le maire Louis Michel nous fait une invitation.
Il faut savoir que toute l'année, donc, la statue et son autel est dans l'église de Saint-Sébastien et qu'elle peut recevoir des motifs et puis des prières. On peut prier le jour en union avec nous. Mais on peut passer à Saint-Cyr-le-Gravelet par un beau lundi d'été et déposer une motif, s'arrêter deux minutes et continuer sa route.
Merci à Louis-Michel de cette invitation. Et on peut préciser que le prénom Sébastien vient du latin Sébastianus, qui tire son origine du nom vénéré, et à préciser qu'il est aussi le saint patron des policiers.
L'hebdo-région, si on sortait.
Et pour cette dernière rubrique, on retrouve Maxence Éloi de RCF Vendée. Bonjour Maxence.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Malgré les réflexions de la ministre de la Culture pour permettre la réouverture des lieux culturels, le blackout reste total, le moral dans les chaussettes. Mais en Vendée, comme sur l'ensemble du territoire national, certains acteurs engagés continuent à faire vivre la culture malgré ce flou permanent.
Qu'ils soient artistes ou régisseurs, techniciens ou guichetiers, le manque de visibilité instauré par les mesures sanitaires dues au coronavirus les plombe d'abord. Pour Mathias Triballo et la bien nommée Perrine Desproges, respectivement directeur du cinéma d'art et essai Le Concorde à La Roche-sur-Yon et directrice de la nouvelle salle de spectacle La Balise à Saint-Hilaire-de-Riez, la décision gouvernementale tardive de laisser fermer les lieux culturels en décembre dernier a eu un fort impact. On les écoute.
Ce qui nous a posé le plus grand souci, c'était plutôt d'avoir créé un faux espoir à partir du 15 décembre et puis d'apprendre 5 jours avant qu'on ne pouvait pas ouvrir. Ça a été assez compliqué à mettre en place parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas réouvrir un cinéma du jour au lendemain. Il nous faut à peu près 3 semaines pour remettre la machine en route, pour qu'on choisisse le nom des films. Enfin, il faut que les distributeurs déjà fassent le choix de les sortir. Il faut que nous, on puisse après les choisir pour faire le choix le plus adapté à notre public. Et puis après, effectivement, ça demande de créer des outils de communication pour prévenir notre public, pour qu'il puisse être là en temps et en heure.
Faut rebondir de toute façon. Mais c'est vrai que ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir des dates à 15 jours et c'est absolument ingérable. Et c'est vrai que là, depuis le 15 décembre, depuis les annonces du 15 décembre, moi je sens dans l'ensemble du monde de la culture, on est vraiment descendu d'un cran au niveau du moral, d'un gros cran.
Pour autant, Mathias Triballo et Perrine Desproges n'ont pas arrêté leur activité durant le second confinement.
Tout à fait Thomas, ces deux acteurs de la culture en Vendée continuent d'avancer, s'adaptent et essayent même de se réinventer. Sensible aux difficultés financières des artistes qu'elle programme, Perrine Desproges propose à certains d'entre eux de travailler leur œuvre dans les conditions du réel, une occasion pour elle de faire vivre la balise.
Ce qu'on a réussi à faire, et c'est pour moi des petites victoires, c'est de mettre la salle à disposition pour des équipes qui sont venues répéter. On a eu l'occasion d'avoir une école des CM1, CM2 qui sont venues rencontrer les artistes, visiter la salle. Et on en a une avec Yannick Jolin le 28-29-30. Janvier, qu'on espérait ouvrir au public le 30, et puis on ne pourra pas le faire, mais on accueillera quand même Monsieur Jolin et son nouveau projet, qui est un groupe de rock patois, qui a émergé dans sa tête pendant le premier confinement. Donc pour moi, c'est des vraies victoires en temps de semi-confinement, quoi.
La salle de spectacle Hilaroise est financée par les services publics, tout comme le cinéma Le Concorde, qui bénéficie du soutien de l'établissement public de coopération culturelle cinématographique lyonnais. Le directeur Mathias Triballo profite de cette période d'activité morte pour lier culture et proximité.
On prépare des projets, notamment pour à partir du printemps jusqu'à cet été. Donc on a un projet notamment autour de la sortie d'un film qui devrait créer un événement en milieu rural. On a un projet aussi avec des maisons de quartier pour un festival autour du cinéma social. On a aussi des activités d'éducation à l'image qui continuent. Alors du coup, on ne peut plus accueillir les élèves en salle. Par contre, ma collègue Hélène Noël est intervenue et intervient encore dans les classes du département pour pouvoir continuer les dispositifs d'éducation à l'image. Et puis nous commençons dès à présent à travailler sur la prochaine édition du Festival international du film qui aura lieu en octobre prochain.
Perrine comme Mathias attendent avec impatience la réouverture au public de leur établissement, mais ne se font guère d'illusions quant à une échéance rapide.
Maxence Éloi pour RCF Vendée. Merci beaucoup Maxence, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis il y avait encore du spectacle dimanche dernier à l'Hôtel des Ventes de Mayenne. On a atteint un record mondial d'enchères. Une toile de l'artiste mayennais Robert Tatin a été adjugée au prix de 40 300 euros, très exactement, et puis une autre pour 23 560 euros. Dans le même temps, deux œuvres de Félix Delmarle, Station de métro Montparnasse et Métro Gare d'Orléans, ont été préemptées par le Musée d'art moderne de la ville de Paris. Une importante paire de lustres du style Louis XVI en bronze doré et patiné est partie à 45 260 euros. Et le plat à la colombe de la paix de Pablo Picasso est monté jusqu'à 21 080 euros. 54 nouvelles tables ont obtenu une étoile au guide Michelin 2021 en France. La cérémonie s'est tenue lundi dernier, en dépit de la fermeture des restaurants. En Pays de la Loire, 3 établissements ont décroché le précieux ZESAM. Au total, dans la région, on dénombre 2 restaurants 2 étoiles et 18 restaurants 1 étoile. C'est en Loire-Atlantique que l'on trouve les 3 nouvelles tables étoilées. Il s'agit du restaurant Rosa, tenu par le chef Jean-François Pantaléon, et du manoir de la régate du chef Mathieu Pérou, tous les deux situés à Nantes. Le Castel Marie-Louise d'Éric Mignard à La Baule retrouve son étoile perdue en 2015. Le restaurant Le Gambetta à Saumur en Maine-et-Loire perd son unique étoile cette année. Il est le seul en Pays de la Loire. En Mayenne, l'Éveil des Sens reste le seul restaurant étoilé du département. Même chose pour l'Auberge de Bagatelle en Sarthe. Aucune table vendéenne n'est récompensée par le célèbre Guide Rouge cette année, mais 6 restaurants conservent leur étoile. Et enfin, nous avons appris cette semaine la disparition de Jean Graton, l'auteur des célèbres aventures du pilote de bande dessinée Michel Vaillant. Il a souvent mis les 24 heures du Mans à l'honneur dans ses ouvrages. Les aventures de son héros ont été adaptées en film par Luc Besson en 2002, avec une grande partie du film tournée sur le circuit. Et c'est la fin de cette hebdo-région. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain.